RJB Info, Olivier Zano.
Bonjour, le HC Bienne se remet sur le droit chemin dans le championnat de National League de hockey sur glace. Il a dompté les Tigres de Langnau 4-1 hier soir à la Tissot Arena. Une victoire qui fait du bien après les deux revers enregistrés contre Fribourg-Gotteron. Et ce succès s'est dessiné dans le deuxième tiers où les Célandais ont marqué 3 fois. Ils ont ensuite pu gérer le raki, l'attaquant Gillian Koller.
Ça fait du bien d'avoir récolté ces 3 points ce soir et c'est vrai que dans les derniers matchs on n'a pas trop vu ce qu'on a montré ce soir, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a construit durant ces derniers jours et ça a payé ce soir.
Après un premier tiers poussif, bien à décoller dans le deuxième tiers, comment vous expliquez cette métamorphose à ce moment-là?
Je pense qu'on peut prendre l'exemple du ketchup quand il est plus ou moins vide. On doit pousser, puis au bout d'un moment, il y a tout qui sort. Et je pense que c'est un peu le résumé de ce qui est passé avec nous. Ces derniers temps, on a un manque de réussite et ce soir, c'est tout sorti au même moment.
Des propos recueillis par Raphaël Chalvera, le HC Bienne est toujours 10e du classement, mais compte désormais 4 points d'avance sur la 11e place. Retrouvez une galerie photo de ce derby bernois entre le HCB et Langnau sur rjb.ch. Le volleyball Franche-Montagne n'a pas rebondi, il s'est incliné 3-1 sur le parquet de Toggenburg hier en Liga. Après un premier set qui a vite tourné à l'avantage des Saint-Galloises, les Téniennes sont parvenues à faire jeu égal avec leur adversaire, parvenant même à empocher la 3e manche. Il a toutefois manqué quelques points aux visiteuses pour espérer faire mieux face au 8e du classement. Avec cette 3e défaite de rang, le VFM recule à la 7e place de la hiérarchie et accuse 7 unités de retard sur le podium après 8 journées. Michel Guizine peut rêver d'un premier succès en Coupe du Monde de ski alpin. L'Obvaldienne a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Lévis ce matin, à égalité toutefois avec la gagnante de la veille, Petra Vlova. L'équipe de Suisse féminine, qui attend un succès dans la discipline depuis près de 19 ans, abattra même un deuxième atout majeur sur la piste finlandaise. Wendy Holdener pointe en effet au 3e rang à 23 centièmes des deux leaders. Les 12 premières pointent dans la même seconde, parmi elles l'américaine Michaela Schifrin, qui est 4e à 37 centièmes. La Neuchâteloise d'Hérémence, Mélanie Meillard, est pour sa part partie à la faute. La deuxième manche commencera à 13h15. Et la pandémie de Covid-19 s'invite dans l'équipe de Suisse masculine. Loïc Meillard, Justin Murizier et Marco Odermatt ont été testés positifs, selon une information divulguée hier. Ils doivent rester en isolement et faire l'impasse sur le slalom parallèle de Coupe du Monde à l'air vendredi prochain. La finale du Masters de tennis opposera ce soir Dominic Thiem à Daniil Medvedev. L'Autrichien a battu le numéro 1 mondial serbe Novak Djokovic hier en demi-finale à Londres. Il l'a emporté en 3-7, 7-6, 6-7, 7-6. Le Russe a lui obtenu son ticket au détriment de l'Espagnol Rafael Nadal en 3 manches également. Score final 3-6, 7-6, 6-3. La finale se tient ce soir dans l'O2 Arena. On referme ce volet sport, mais on reste dans le monde de la compétition. Il s'appelle Jonah Rieder, il a 19 ans, vient de Crémines et s'est classé hier 4e au championnat suisse des maçons. Le jeune homme est employé par une entreprise de construction à Moutier. Il a échoué à un petit point du podium après 29 heures d'épreuve entre mercredi et samedi. Une belle expérience pour le seul roman qualifié pour les finales de ses Swiss Skills et surtout pour le plus jeune candidat en lice. Il nous explique en quoi il a pu progresser grâce à ce concours.
Déjà la précision, j'ai beaucoup progressé. Une très grande fierté de ce que j'ai réalisé. Je ne pensais pas être capable de pouvoir faire ça. Mon prof m'avait demandé si je voulais faire les concours. Je lui ai dit ouais, je ne sais pas si je suis vraiment capable. Et puis vu les résultats que j'ai faits, je suis vraiment très fier.
Depuis la première phase de qualification, qui était romande, jusqu'à ce final suisse, vous avez vu une différence?
Oh, oui, vraiment, une très très grande différence. J'ai vraiment évolué, progressé. Ce qu'on fait au concours, on ne va jamais le faire au boulot. Une fois, j'ai mentionné de la brique visible, mais il n'y a pas de coupe spéciale. C'est vraiment du droit, quoi. C'est clair que ça va m'aider, parce que pour la précision, c'est surtout ça.
Jonah Rieder n'en restera pas là. Il vient de signer un deuxième contrat d'apprentissage, cette fois-ci en agriculture, une autre de ses passions. La lauréate 2020 du prix de la Société des Beaux-Arts de Bienne est une jeune artiste de 26 ans. Jeanne Jacob est née dans le canton de Neuchâtel. Elle a passé l'essentiel de sa jeunesse à Bienne où elle vit désormais après un passage à Lucerne. La jeune femme développe son travail artistique dans la peinture, le dessin et les performances. Un travail fortement imprégné de son activisme et qui met souvent en scène des personnages à la fois sensuels, comiques et vulnérables. Alors pourquoi cette attirance pour le portrait? On écoute Jeanne Jacob.
Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont plus paysages et des gens qui sont plus portraits. Bah, je crois qu'on choisit pas tout le temps. Hein. c'est venu assez automatiquement depuis longtemps. Ce qui m'intéresse au portrait, c'est, je sais pas, les gens de manière générale, comment est-ce qu'on fonctionne. Je suis aussi activiste dans mon temps libre. Et je pense que les causes sociales, c'est quelque chose qui me passionne. Donc comment est-ce qu'on fonctionne aussi par rapport à la société? Comment est-ce qu'on a été socialisé?
Comment ça se passe quand vous commencez une œuvre? C'est quoi un peu le processus?
J'ai pas mal de livres et de magazines dans mon atelier. Je regarde beaucoup d'images. C'est comme du fast-food. Je me nourris avec les yeux. J'enregistre des trucs. Et ensuite, je les mets de côté, mes bouquins. Et je me lance sur le tableau. Je travaille de manière assez intuitive, donc je ne les prévois pas, je ne sais pas ce qui va venir. Et puis après, voilà, je flash et puis on voit ce qui se passe.
La lauréate du prix de la Société des Beaux-Arts de Bienne obtient une bourse. Elle pourra aussi présenter ses œuvres récentes au Centre d'art Pascard à Bienne à l'occasion de la cantonale Bern-Jura qui doit se tenir entre décembre et janvier, pour autant que les musées puissent rouvrir leurs portes. Une vente aux enchères silencieuse plutôt qu'à la criée, Caritas Jura doit s'adapter cette année aux conditions sanitaires pour mettre sur le marché les divers objets récupérés par l'atelier Valorisation des dons. L'événement se fera sous la forme d'une vente aux enchères en ligne ou sur ordre d'achat manuscrit dès vendredi et jusqu'au 13 décembre. Le catalogue contient plus de 100 lots allant des jouets vintage à des verreries de renom. Les intéressés pourront quand même venir voir les objets sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires. Le responsable de la vente nous explique pourquoi, Baptiste Préto.
C'est aussi pour quand même toujours accepter et de respecter justement aussi ce lien qu'il y a avec les objets, que les gens puissent le voir aussi physiquement, et puis tout en respectant bien sûr les règles sanitaires hein, qui s'y rapportent aujourd'hui à cette situation exceptionnelle. Et puis c'est vrai que ce lien est important parce qu'il y a tout type de population, hein, de personnes qui désirent miser, et puis on veut vraiment pas que ça soit un frein justement le fait de remplir le formulaire sur Internet.
Pour vous, c'était quand même important de maintenir cette vente aux enchères cette année. Ça aurait été difficile de faire l'impasse finalement.
Oui, alors ça, c'est aussi pour différentes raisons. Tout d'abord, pour montrer que Caritas Jura reste vraiment actif, hein, malgré ces périodes, encore même plus actif que la normale, hein, dans ses ateliers, dans les différentes actions que l'on mène. Il y avait aussi une volonté de pouvoir offrir quand même un événement, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, à la population jurassienne. Et puis, continuer un peu cet engouement qu'il y a eu dans les deux premières éditions, où les gens avaient vraiment du plaisir à miser, à avoir cette ambiance qui tourne autour des enchères. Alors, cette année, elle sera différente, l'aspect est un peu différent, mais il y a quand même ce jeu d'enchères à l'aveugle, je dirais, qui peut quand même amener un certain dynamisme et quelque chose qui peut être sympa au final.
Baptiste Préto au micro d'Alexandre Rosset. Les mises seront dépouillées le 14 décembre en présence d'un notaire assermenté. Le catalogue des objets mis en vente peut être consulté sur le site internet de Caritas Jura ainsi que sur les lieux de vente de Bienne, Delémont, Porrentruy, Seigne-Légier et au comptoir d'Eva à Moutier. Il peine à convaincre. C'est le deuxième paquet de mesures du Conseil fédéral pour freiner la hausse des coûts de la santé. Le plafonnement des coûts et l'idée d'une instance de premier recours suscitent la polémique. La prépondérance du critère du prix est aussi critiquée selon la procédure de consultation qui s'est achevée jeudi. Et si Uli Maurer démissionnait dans un avenir proche, la rumeur enfle à Berne. Le Matin Dimanche pointe le fait que deux proches collaborateurs du ministre des Finances vont changer d'affectation. Le conseiller fédéral UDC aurait en outre perdu la confiance de certains collègues en affichant publiquement ses désaccords sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Et à propos de la pandémie, cette déclaration d'Emmanuel Macron au journal du dimanche, rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. Le président français veut mettre fin à cette incertitude sur la crise sanitaire en apportant de la clarté et un cap, selon ses propos. L'exécutif n'envisage pas pour autant la fin du confinement, mais on évoque un assouplissement en trois étapes. Une allocution d'Emmanuel Macron est attendue mardi soir. Les dirigeants du G20, dont le président français, ont promis hier de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19. La réunion du G20 a débuté hier sous forme d'une visioconférence suivie avec plus ou moins d'assiduité. Une déclaration finale devrait éclore des débats dans la soirée. Des fusions pour surmonter la crise et les problèmes de rentabilité, c'est la stratégie appliquée par le secteur bancaire espagnol. Plusieurs établissements sont concernés. Des fusions entraîneront inévitablement une réduction du personnel et du nombre d'agences, ce qui inquiète les syndicats. Ces derniers ont déjà vu le nombre de salariés du domaine diminuer d'un tiers depuis 2008. C'est l'épilogue d'une affaire très médiatisée en France. La cour d'assises de Haute-Saône a condamné hier Jonathan Daval à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia en 2017. Ce verdict est inférieur aux réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé la perpétuité. Le jugement est tombé en fin de journée à Vesoul pour clore une semaine de procès d'assises. Les précisions de notre confrère de France Bleu Besançon, Jean-François Fernandez.
Il y a eu des moments forts en émotion, le témoignage de Jean-Pierre Fouillot, et puis surtout l'échange entre Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia, et Jonathan Daval. Au dernier jour, peu après 17 heures, le verdict tombe, 25 ans. Jonathan Daval reste impassible, Ornella Spatafora, son avocate.
La décision, nous l'acceptons. Nous avons pu travailler dans de bonnes conditions et donc nous ne ferons pas appel de cette décision qui a été rendue ce soir. Jonathan, c'est comme nous et donc il accepte également cette décision qui a été rendue par la cour d'assises.
Sur les marches du palais de justice, les parents d'Alexia, Stéphanie, la grande sœur et son mari Grégory, ils estiment que c'est une condamnation juste. Isabelle Fouillot lève les yeux vers le ciel, la nuit est tombée, on voit les étoiles.
Tout ça c'était pour elle, tout ce qu'on a fait pour elle.
C'était juste pour elle. C'est le regard de là-haut. C'est juste pour elle, ce combat. Voilà. Et j'espère qu'aucun d'entre vous, aucun Français ne l'oubliera.
La famille d'Alexia qui va essayer de retrouver une vie normale.
Un sujet de France Bleu Besançon. Au moins 14 combattants de milices pro-Iran, en majorité irakiens, ont été tués dans des raids aériens nocturnes. C'est ce qu'a rapporté une ONG ce matin. Ces raids visaient leur position dans l'est de la Syrie, une région en proie à de violents combats. Et ces frappes ont été imputées à Israël par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'État hébreu n'a pas réagi pour l'heure à ces affirmations. Aux États-Unis, un nouveau revers pour Donald Trump. Un juge de l'État de Pennsylvanie a fermement rejeté hier les allégations de fraude électorale portées par le président américain sortant. Le républicain nie toujours sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre. La décision du magistrat, dont le jugement est cinglant, ouvre la voie à la certification de la victoire du démocrate Joe Biden en Pennsylvanie. Une certification qui doit se produire demain. Enfin, un mot sur la météo. Les grisailles matinales, parfois givrantes, se sont dissipées dans les vallées. Elles peuvent encore jouer avec le soleil dans le Seeland, mais globalement, c'est une journée lumineuse qui nous attend, malgré le passage de nuages d'altitude parfois nombreux. Faible tendance à la bise sur le Seeland et dans les vallons, un peu plus sensible sur les crêtes du Jura. Côté température, elles atteindront au maximum 6 à 8 degrés. Même type de temps pour la journée de lundi. Bon appétit, bon dimanche et je vous retrouve à 18h pour le journal du soir.